Dominique Avon, vous êtes professeur en histoire contemporaine et vos travaux se situent au carrefour de trois champs: l'histoire religieuse, l'histoire intellectuelle, l'histoire des relations internationales. Comment est-ce qu'on peut être au carrefour de ces trois champs ?
Je pourrais vous expliquer à travers un premier exemple qui est celui du dernier ouvrage que j'ai écrit avec Anaïs Trissa-Katchadourian et qui porte sur la pensée du Hezbollah. Si on ne cherche à expliquer le fonctionnement de celui qui s'appelle le Parti de Dieu uniquement à travers des outils de la géopolitique ou de la sociologie, on passe à côté d'un certain nombre de réalités qui sont très très importantes pour saisir ce fonctionnement et surtout la portée de ce groupe qui est un groupe politique mais également un groupe politico-religieux. Et donc il faut tenir compte d'un paramètre géopolitique, il faut tenir compte d'une histoire de la pensée qui fait que le discours du Hezbollah se situe à la confluence de la tradition chiite mais aussi de courants tiers-mondistes, ça c'est pour l'histoire intellectuelle. Et l'histoire religieuse, c'est que la dimension proprement chiite de l'islam du Hezbollah est très importante pour essayer de l'approcher.
Ce qui est curieux dans l'exemple que vous prenez, c'est le fait que vous preniez un exemple de l'islam. Est-ce que c'est particulier à l'islam d'entrecroiser ces différents courants ?
Non, j'interviens dans le cadre d'un colloque sur les chrétiens en Orient et la proposition que j'ai faite, c'est un portrait croisé de trois chrétiens orientaux. Youssef Kalam qui était philosophe en Égypte, Joachim Moubarak qui était professeur en France et Charles Malek qui a été à la fois diplomate mais aussi professeur de philosophie au Liban. Et leur itinéraire, qui est un itinéraire intellectuel selon l'angle que j'ai choisi d'adopter, ne se saisit qu'à la lumière aussi d'enjeux qui se relèvent de l'histoire des relations internationales. Charles Malek, par exemple, est l'auteur de l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans un contexte précis, il s'oppose à un diplomate chinois, un diplomate soviétique et également sur des éléments vraiment de la pensée, de la pensée philosophique, à l'épouse de Franklin Roosevelt. Donc il faut prendre en compte justement ces éléments-là.
Quand vous dites prendre en compte ces éléments-là, je voudrais vous demander, Dominique Avon, l'histoire des religions n'est pas forcément facile d'accès pour différentes religions, justement. Vous avez un projet, vous pouvez nous en parler ?
Ce projet est fondé sur une observation et un défi à relever. L'observation, c'est que les spécialistes de telle ou telle religion se croisent assez peu avec les spécialistes de telle ou telle autre religion. Et si l'on met en comparaison leur production, on s'aperçoit que la grille de lecture n'est pas toujours la même.
Quand vous dites grille de lecture, expliquez-nous ce que vous entendez par grille de lecture.
Prenons là encore un exemple concret pour saisir la problématique. La question du darwinisme qui se pose historiquement après 1859. On la pense en général dans les milieux européens uniquement par rapport à la réponse de l'Église anglicane d'abord, de l'Église catholique ensuite, puis des autres églises protestantes. Alors il se trouve que, à peu près en temps réel, à une génération d'écart, par le biais de traductions en langue arabe, les autorités religieuses musulmanes vont donner également une réponse, une réaction. Et ça, on le met peu souvent, ou très peu souvent, en relation. Ce que je voudrais justement faire valoir, c'est cette possibilité de voir dans le même temps, dans une temporalité commune, avec les mêmes outils d'approche, cette problématique commune et le type de réactions qui sont des réactions à la fois différenciées, mais également parfois convergentes. Je vous donne un autre exemple, c'est le rapport à la Grande Guerre et à l'engagement dans le cadre de la Grande Guerre. Le trait commun ou la problématique commune, c'est que les rapports de solidarité de type nationaux, quel que soit le milieu religieux, ont été plus forts en 1914 que les rapports de solidarité de type confessionnel. Ça vaut pour un milieu catholique, ça vaut pour un milieu protestant, ça vaut pour un milieu musulman aussi. Ce qui signifie que de part et d'autre du Rhin, des catholiques se sont opposés, mais dans la péninsule arabique, des musulmans se sont opposés. Et nous sommes dans une temporalité commune, avec une grille qui est nécessaire pour essayer d'expliquer pourquoi. Et ce pourquoi, c'est la prégnance du fait national qui se définit de manière très complexe, mais qui vaut en même temps dans un ensemble régional assez vaste. Et donc voilà ce que j'appelle cette grille de lecture commune. Ce sont des percevoir des problématiques communes et des réponses différenciées, mais à partir d'éléments, si vous voulez, communs.
Pourquoi avez-vous choisi l'histoire religieuse ?
Je constatais qu'il y avait un déficit de ce côté-là, c'est-à-dire que les non-croyants disaient « on s'en désintéresse » et les croyants, pour une part, voulaient en parler uniquement en tant que confessants. L'idée que j'ai eue assez rapidement, c'est de dire « peu importe a priori ce qui est fait par tel ou tel dans l'intimité de sa vie, ce qui doit être possible, c'est de présenter un discours qui est accessible et compréhensible par tous, quelle que soit leur conviction religieuse, ou non religieuse. » Et donc c'est un défi très fort qui s'est renforcé, alors non pas dans le cadre d'une rencontre, mais d'une expérience. Et cette expérience est une expérience de coopération en Égypte, où pendant 2 ans, je me suis trouvé devant des classes d'adolescents chrétiens et musulmans égyptiens qui ont présenté par leurs interrogations, par leur appétit, par la manifestation de leur manque aussi, énormément de questions de ce point de vue-là. Je n'avais pas le droit d'enseigner l'histoire en Égypte parce que je n'étais pas un égyptien, mais à travers les cours de français, je leur ai parlé de l'histoire et je me suis rendu compte qu'il y avait une demande considérable. Et donc ça a nourri depuis une vingtaine d'années tout mon itinéraire.
Une demande considérable qui se traduisait par quel genre de questions ?
La possibilité d'avoir un discours critique sur les enjeux de mémoire, par exemple.
Est-ce que c'est pour vous particulièrement fort cet enjeu de mémoire ?
Oui, j'observe que notamment, mais ça vaut pour tous les objets, hein, mais dans le cadre de l'histoire religieuse et de l'histoire religieuse comparée, je constate que telle communauté confessante ou telle autre communauté confessante porte en elle des enjeux de mémoire. Et telle communauté non confessante porte également en elle des enjeux de mémoire dans les sociétés européennes. Le propos de l'historien est de dire, bon, vous avez ces enjeux de mémoire, vous les vivez, vous vivez avec, c'est une chose.
Et peut-être de les rendre conscients.
Voilà, et il est important de vous montrer comment ils se sont construits pour ou bien les conserver ou bien prendre également à titre personnel de la distance avec ceci. Et quand on compare, par exemple, qu'on constate que dans un cas donné, un musulman est un persécuté et qu'il se réfugie ici, et que dans un autre contexte, un musulman est un persécuteur, cela forcément pousse à s'interroger. Idem pour un catholique qui, dans un cas, est un persécuté, dans un autre cas, est un persécuteur. Et donc, la relativisation par rapport à ces enjeux de mémoire me semble, dans le contexte actuel, assez important.
Parlez-nous, pour terminer, de ce contexte actuel et de ces enjeux que vous essayez de faire émerger.
Je peux vous donner quelques exemples à partir de travaux d'étudiants, doctorants avec lesquels je travaille. C'est une équipe extrêmement dynamique. Je peux vous donner 3 ou 4 titres de sujets de thèse qui sont en cours. Une thèse sur le Cénacle libanais, qui a été pendant 25 ans, après la Seconde Guerre mondiale, jusque presque à la veille des guerres libanaises, un lieu absolument extraordinaire de débats, d'échanges, en langue arabe et en langue européenne, de personnes de toutes confessions, et qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc pourquoi ? Il faut savoir comment ça a été possible et pourquoi ça s'est arrêté. Pour ce faire, on a besoin d'une thèse, de travaux de recherche en tout cas, qui permettent de saisir ceci. Un autre exemple qui me paraît intéressant, c'est une thèse en cours sur l'enseignement de la langue arabe en France. On a de multiples manuels qui sont utilisés par des associations dans le cadre scolaire ou périscolaire. Et qu'est-ce que l'on constate lorsque l'on fait l'étude de ces manuels, de leur composition, du financement des maisons d'édition ? C'est qu'il y a un discours religieux spécifique qui est très souvent utilisé à travers un enseignement qui pourrait être considéré comme neutre de la langue arabe. Et donc il faut essayer de voir quel est ce discours religieux, qui le finance, comment. Et pour ça, il faut faire un travail de recherche assez long. Et on a un véritable enjeu sociétal dans le cadre de la France contemporaine, puisque c'est le cadre français. Un troisième exemple, un étudiant travaille sur un jésuite, le jésuite Braun, qui a été nommé juste parmi les nations. Il est totalement ignoré dans la mémoire aujourd'hui, y compris par certains jésuites qui ne savent pas qu'il y a un jésuite juste parmi les nations. Et donc j'ai proposé à un étudiant de faire une thèse. Ce qui était remarquable, c'est qu'au début de sa recherche, toutes les personnes qu'il allait rencontrer lui disaient « il n'y aura pas grand-chose à dire ». Et en fait, il revient de Jérusalem, là, et il s'est aperçu qu'il y avait vraiment matière à faire une recherche en thèse. Et là encore, nous avons un enjeu pour la société contemporaine, montrer pourquoi un jésuite a été nommé, qualifié juste parmi les nations. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il en est venu là, alors qu'on était dans un contexte où l'antisémitisme en France était une réalité sociale importante? Pourquoi lui se situe-t-il en opposition par rapport à ça?
Est-ce qu'on peut dire que tous ces enjeux que vous essayez de faire venir à la lumière, de clarifier, servent finalement à une meilleure compréhension entre les peuples? Est-ce que finalement ce que vous essayez de produire, c'est pour un travail de paix?
Il faut être très très modeste. On se rend compte qu'on est très peu lu. On a la chance parfois d'être interrogé et je vous en remercie. Mais il me semble effectivement que quand on commence à prendre de la distance par rapport à des impulsions, des sentiments, une mémoire vive qui est blessée ou pas, il est possible de mieux rencontrer la personne qui est en face et que l'on avait a priori classée dans le camp adverse. Donc, en ce sens, oui.